Bonjour à tous. Juste une petite annonce. Je voudrais quand même dire à ceux que je ne verrai pas après, puisque dès que j'aurai fini cette exhortation, nous partirons, moi et ma famille, dans la foulée. Et donc j'aurai le regret de ne pas voir la famille Pahu et de les, donc les saluer. Je suis très content de vous voir. La famille Key aussi, Marc, mon complice de colo avec qui j'ai attrapé des vipères en passé. Donc ça, voilà, pour ceux qui savent, vous pourrez lui demander. Mais je suis content de vous voir aussi, mais je ne connais pas votre prénom. Oui.
Jean-Louis.
Jean-Louis, ok. On s'est vu déjà, mais pas souvent. Je pense que vous êtes déjà venu ici. C'est ça, très bien, très très bien. Bienvenue en tout cas. En fait, Pierre a parlé d'un sujet, il a parlé de la logique comptable de Dieu, dans ce qu'il a dit tout à l'heure, les gains et les pertes. Et on va revenir là-dessus ensemble. On va revenir aussi un tout petit peu, parce qu'on est dans la suite de ce qu'a dit Pierre, cette fois-ci l'autre Pierre, mon frère dans la chair, mon frère spirituel, mon frère dans la chair et spirituel, qui nous avait parlé la fois dernière du juge unique, et qu'on appelle aussi le débiteur impitoyable, et il nous avait parlé du pardon. Donc il y a plusieurs événements qui ont motivé un petit peu cette exhortation ce matin, où on va parler essentiellement des ouvriers de la dernière heure, dans cette logique comptable. C'est le film que j'ai vu sur Gandhi, que j'ai revu pour la troisième fois. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un film tout à fait remarquable, où Gandhi fait un commentaire sur la loi du talion, et il dit « œil pour œil ». Si nous en faisons la loi, eh bien le monde deviendra aveugle. Et je trouve que c'était intéressant comme phrase de sa part. Il y a d'autres événements aussi qui ont jalonné un petit peu notre semaine, qui jalonnent nos semaines en ce moment, c'est tout ce qui se passe dans le monde. Et vous imaginez que si vous êtes sur l'île Saint-Martin, eh bien, lorsque l'ouragan est passé, vous avez tout perdu. Et vous vous demandez si ce n'est pas ça la fin du monde. Il y a eu des morts. Il y a eu plusieurs îles qui ont été touchées. Il peut se réveiller encore un ouragan. Et dans ce cas-là, on peut se demander, mais où est Dieu dans tout ça? Cette semaine aussi, vous savez que je suis un fan de La Petite Maison de la Prairie. Et donc, je regarde ça avec mes enfants avec énormément de plaisir. Et cette fois-ci, j'ai vu un épisode que je n'avais pas vu. Pourtant, j'en ai vu beaucoup. Et c'était sur cet épisode où vous avez la famille Ingalls qui est en train de dormir. Et puis, d'un seul coup, se passent des choses terribles dehors. Et il y a une tornade qui arrive. Et donc, en pleine nuit, ils sont réveillés. Et tout est détruit. Et le père de Marc connaît bien ça, puisqu'il a vécu au Texas. Et il nous expliquait, lorsque nous avions vu un film chez toi, enfin, chez tes parents, en tout cas, à l'époque, sur les terribles tornades que peuvent frapper les États-Unis, où les gens perdent tout, d'un seul coup. Et vous avez des planques dans ces zones à risque où on se met dans une cave et on ne bouge plus jusqu'à ce que la tornade est passée. Vous sortez de votre cachette et peut-être que votre maison est complètement détruite, complètement partie. En tout cas, dans ces moments-là, et dans la vie de Charles Ingalls, il se dit à ce moment-là, il désespère. Vous savez qui est Charles Ingalls ? C'est un homme de Dieu, le père de famille quasiment idéal, qui vont à l'église tous les dimanches, et là il se dit, mais pourquoi ai-je tout perdu? Et là il est désespéré, tellement désespéré qu'il emmène dans le désespoir ses filles, sa femme, qui n'ose rien lui dire, il décide de vendre la ferme. Et pour finir, bon, l'histoire se passe bien, les acheteurs sont deux vieilles personnes, des sages, l'un et l'autre, qui étaient propriétaires de cette ferme avant et qui s'étaient dit dans leur vieux temps, tiens, notre ferme de notre jeunesse est à vendre de nouveau, eh bien on va la racheter. Et eux, ils avaient quitté la ferme pour les mêmes raisons, parce que la tornade est passée aussi. Et puis cette vieille personne restaure la ferme avec Charles Ingalls, il paye tous les matériaux, parce qu'il se dit, bon, je ne vais pas pouvoir le faire moi-même, je suis trop vieux. Et puis il développe une relation avec les enfants, etc. Ils vont à table ensemble. C'est un homme sage. qui raisonne la petite Laura Ingalls, vous allez voir dans son lit en disant bah, je sais que tu es fâché contre Dieu, mais il pleut sur les bons et sur les méchants. Elle lui explique un petit peu le sens de cette vie sur terre. Et finalement, la fin se passe bien entendu comme vous l'imaginez. Les vieilles personnes se disent on ne peut pas enlever cette ferme à cette famille. Nous, on est trop vieux pour la prendre en charge. Et ils repartent. Mais il dit mais tout l'argent qui est investi là-dedans, mais c'est cadeau. Donc c'était voilà un peu le film. Et je me suis dit, tiens, dans ce contexte de tornades, d'ouragans qui frappent notre pays, qui frappe le monde, dans ce contexte de précarité très intense que nous vivons, on peut se demander où est Dieu. Alors j'ai l'impression d'être un peu comme Phil Kalkroth avec toutes ces pages. Vous l'avez déjà vu. Quand il arrive, il a toujours des tas de bouquins. Donc j'ai pas mal gambergé cette semaine sur tout ça. Et je voudrais commencer par vous lire un texte d'Ésaïe 55 qui dit ceci. « Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers votre Dieu qui est riche en pardon. » Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins et mes pensées au-dessus de vos pensées. Cette traduction qui est assez commune dit « Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche ». En fait, une autre traduction pourrait être utilisée comme celle-ci et qui me semblerait plus proche de la réalité. Cherchez le Seigneur puisqu'il se laisse trouver. Invoquez-le puisqu'il est proche. Vous n'imaginez pas que notre Dieu puisse être loin de nous, même quand on a l'impression qu'il est loin, il est proche. La tradition de Chouraki dit aussi ceci, elle utilise une autre conjonction qui dit « Cherchez le Seigneur quand il se laisse trouver et invoquez-le quand il est proche. » Le Seigneur est tout le temps là, même dans nos moments les plus dramatiques de nos vies, il est tout le temps là et c'est quelque chose dans lequel nous devons avoir confiance. Je lisais un bouquin de l'abbé Pierre, « Mon Dieu, pourquoi ?» voilà, que j'ai trouvé. Et il se pose des questions et lui n'a jamais douté de l'existence de Dieu. Il dit ne jamais avoir été même triste au moment des enterrements parce qu'il est dans cette certitude qu'il y a une vie après, que tout ne se résume pas à notre vie terrestre. Et c'est une manière de voir les choses qui nous aide considérablement, quelles que soient les épreuves que nous traversons. Et heureusement que nous avons celle-ci. Heureusement, finalement, que notre foi, elle n'est pas testée, elle est simplement aiguisée par les épreuves qui vont nous toucher. Et elle nous aide à grandir. Et finalement, quand nous sommes dans cette perspective de grandir, on ne peut qu'accueillir les épreuves comme un sujet de grandir. Et les gens vont nous regarder. Ah, il ne faut pas, évidemment pas se vanter, se dire « nous sommes chrétiens, tout nous passe ». Évidemment, nous souffrons autant que les autres, puisque nous sommes faits de la même chair, mais nous avons une espérance. Et cette espérance est vraiment extraordinaire. Extraordinaire. Lorsque Ésaïe a lu ce texte, a écrit ce texte, le peuple d'Israël était en exil à Babylone, et le peuple semblait être abandonné. En plus, Dieu leur avait promis que cette terre, il la garderait, quoi qu'il arrive, et puis cette terre leur a été retirée. Et le doute et le soupçon, il faut résolument tourner le dos à ça quand nous traversons ces épreuves, nous encourager mutuellement, comme Charles Ingalls a pu être encouragé par sa famille, par son église, par ses enfants, par sa femme, à tenir le coup. Pas toi, papa. À toi, c'était l'homme fort de la situation, tu as toujours été costaud, et puis là, tu abandonnes. Tu abandonnes. C'est normal de crier à Dieu, pourquoi ? Pourquoi ? C'est normal. Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, Dieu fait chair, dit sur la croix, mon Dieu, pourquoi ? Pourquoi m'as-tu abandonné ? Heureusement que le Seigneur a dit cette phrase, parce qu'elle rejoint aussi, mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Heureusement, c'est une confession que je vous fais, plus je vieillis et plus je crois. Plus je vieillis, plus je m'intéresse à la science, plus je crois en Dieu. Et c'est un cadeau. Mais ça s'entretient. Ça s'entretient. Le monde est là pour nous happer. Et à chaque fois, il faut donner un coup de frein, s'encourager les uns les autres pour tenir le coup. Jonas, qui était devant Ninive, il a vécu une envie, c'est que justice soit faite. Et il annonce aux Ninivites qui vont être détruits, exterminés, parce que vraiment c'est un peuple pécheur. Et Jonas dit, je savais bien, moi, que tu es un Dieu bienveillant et miséricordieux, lent à la colère et plein de fidélité. Et Jonas en a voulu à Dieu parce qu'il a dit, voilà, je m'attendais, il se mettait sur la colline, il s'attendait à voir la destruction de cette ville. Et le peuple, d'un seul coup, énormément de personnes se sont repenties. Et Dieu n'a pas frappé Ninive. Et nous allons en venir à notre texte en ayant ça en tête. Cette parabole qui est connue, puisque nous avons cette expression de l'ouvrier de la dernière heure. Donc c'est en Matthieu 20, versets 1 à 16. Dieu disait cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit au petit jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur un salaire d'une pièce d'argent pour la journée et ils les renvoyèrent à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place sans travail. Il leur dit, allez vous aussi à ma vigne, je vous donnerai ce qui est juste. Ils y allèrent, il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là et leur dit, pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ? Ils lui répondirent, parce que personne ne nous a embauchés. Il leur dit, allez-vous aussi à ma vigne. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et distribue le salaire en commençant par les derniers pour finir par les premiers. Ceux qui n'avaient commencé qu'à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'argent. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne te fais aucun tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour une pièce d'argent ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon bien ? Vas-tu regarder avec un mauvais œil, un œil mauvais, parce que moi je suis bon ? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » Juste avant ce texte, il y a le texte du jeune homme riche, où là aussi c'est le gars virtueux. Le pharisien, je dirais, dans toute sa beauté, sa splendeur, qui est en plus riche, qui accomplissait les 613 mitzvot à l'époque, c'était les bonnes actions pour être un bon juif. Mais il lui manquait quelque chose. Quand le Seigneur lui a demandé de renoncer à tout ce qu'il avait, il n'a pas pu le faire, il est parti triste. J'espère pour lui qu'il s'est ressaisi. Le texte ne le dit pas après. Mais voilà le contexte. Et puis, juste après, on va parler aussi de ce texte qui parle des derniers qui seront les premiers et les premiers qui sont les derniers. Vous imaginez un petit peu un chef d'entreprise traiter les gens de la sorte. Qu'ils sortent au petit jour afin d'embaucher des ouvriers, ça se fait, et ça se fait encore maintenant. Là, je viens de finir un livre sur des réfugiés d'Afghanistan. L'un d'entre eux était en Turquie, et puis ils sont là sur la place, ils attendent. Ils devaient gagner sa vie, et ils attendent que quelqu'un vienne les embaucher pour travailler dans leur verger. C'est encore des choses qui existent maintenant. Et là, ils se mettent d'accord pour un salaire d'une pièce d'argent, qui est une, à l'époque, le denier était une pièce qui vous permettait de faire vivre votre une personne de quatre familles avec pour une journée. Donc c'était un salaire raisonnable pour la journée. Hein, si vous aviez tous les jours travaillé à la vigne, vous aviez de quoi nourrir votre famille pour quatre personnes. C'était pas extraordinaire, mais c'était disons raisonnable pour l'époque. Mais le maître, et là c'est spécial, il sort 5 fois. Et il va sortir pour la première fois à 9h, et il voit d'autres ouvriers qui étaient sur la place sans travail, il leur dit « Allez vous aussi à ma vigne, je vous donnerai ce qui est juste ». Donc là il parle de rétribution encore une fois, à 9h. Puis il y va de nouveau vers midi, puis vers 3h, et puis vers 5h, il sortit encore et il trouva d'autres qui étaient là, et il leur dit « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent « Parce que personne ne nous a embauchés ». Il leur dit « Allez-vous aussi à ma vigne ?» Et il négocie même pas de salaire avec eux. Les gens se disent peut-être « Moi, si j'étais à leur place, j'ai attendu toute la journée, je suis arrivé un petit peu tard, j'ai dormi, et puis oh, y a un patron qui vient pour m'embaucher, même si c'est à 5 heures, j'y vais quand même, tant pis si j'ai pas de salaire, au moins il saura que voilà, je suis quelqu'un de bien et que je regarde pas l'argent et ils y vont. » Ceci dit, il se passe quelque chose de très très bizarre dans cette histoire, c'est que il demande aux derniers, lorsqu'il va les rétribuer, les derniers doivent venir en premier. Alors moi j'imagine que si vous êtes sur un chantier où il y a une vigne très importante et vous avez plein d'ouvriers, vous avez déjà bossé de 6h du matin jusqu'à 5h du soir, sans arrêter. Vous imaginez quand même que c'est les premiers qui sont arrivés sur le chantier qui vont être payés en premier pour qu'ils puissent partir et se reposer. Mais non ! Dans l'histoire, c'est les derniers qui arrivent. Celui qui a bossé juste une heure, il se pointe, il n'a même pas négocié de salaire avec le patron. Et puis le patron lui donne un denier, une pièce en argent. Oh, extraordinaire ! Extraordinaire. Le problème, c'est que les gens se disent, j'attends mon tour. Alors ils se disent, bon, ça va aller, mais quand nous, on arrivera en dernier, on va peut-être avoir 3, 4, 5, 10 talents. 10, pas des talents, mais 10 deniers. Et non, ils reçoivent un denier, comme les autres. Et là, ils se disent, c'est pas juste. C'est pas juste. Et le Seigneur dit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne t'ai fait aucun tort. Ce qu'on avait négocié ce matin, tu étais d'accord et content de le faire pour moi. » C'est pas ce que dit le jeu, je paraphrase. Hein. « Mon ami, je ne te fais aucun tort. » Et il appelle « mon ami ». Alors quand j'ai parlé un peu de cette parabole à Marie dans la voiture, elle me dit bah, « Tiens, ça, les premiers ouvriers, 6h du matin, c'est le peuple juif. » Mais oui, c'est une façon de voir les choses. Ils ont bossé pour Dieu depuis 2000 ans. Abraham, Moïse, Isaac, etc. Ils sont encore maintenant, parce que c'est un peuple pour les croyants qui sont pharisiens, hein, c'est la seule faction juive qui est restée encore vivante à l'heure actuelle, qui sévit encore à l'heure actuelle, c'est le peuple pharisien. Et ils se sont dit, mon On a fait tout ça, on continue à faire tout ça, on continue à accomplir toutes nos bonnes actions, ce qu'on appelle les mitzvot. Et puis, on voit les chrétiens qui sont pardonnés de tout, qui ne mangent pas kasher, on les voit vivre, on les voit... c'est vrai que quand vous regardez le monde chrétien dans son ensemble, et si vous le jugez dans son ensemble, on peut guère se dire qu'on est des super-héros. Encore dernièrement, quand vous regardez un petit peu les présidents américains et la manière dont a géré George Bush après le 11 septembre, en appelant à la croisade pour combattre les infidèles et ceux qui nous ont persécutés, vous imaginez si George Bush, à ce moment-là, avait dit « Nous sommes un peuple américain » et nous avons des valeurs chrétiennes, eh bien, on va pardonner. On va pardonner. Imaginez un petit peu l'impact sur le monde. Le président américain qui pardonne à ses ennemis. Imaginez un petit peu. imaginer une autre manière de négocier de Trump par rapport à la Corée, au lieu de mettre de l'huile sur le feu et de jouer son jeu, de négocier les choses différemment, à la manière de Jésus. C'est vrai qu'on est, on n'est pas terrible. Nous, les chrétiens, quand les musulmans nous regardent, quand ils voient toutes ces affiches en France, quand ils voient la télévision, etc., tout ça, c'est un peuple, quand même, la France est un peuple catholique. Et on ne montre pas, nous, les chrétiens, le potentiel qu'on pourrait offrir au monde. Mais lequel Jésus et Dieu ne sont pas dans cette logique comptable-là. Et vous avez des exemples extraordinaires. Le bon larron sur la croix. Alors lui, il n'a absolument rien fait de sa vie. Il se retrouve justement crucifié, il le dit lui-même. Enfin, on a mérité ce qu'on mérite. Une crucifixion, vous imaginez un petit peu, ils sont deux. Et ce larron dit, il reconnaît Jésus comme le Fils de Dieu. Et Jésus dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui. Là, c'est vraiment l'ouvrier de la dernière seconde, juste avant de mourir. Et le Christ l'accueille. Ça a été de même aussi pour les chrétiens qui sont arrivés dans le judaïsme. Ils arrivent, les païens plutôt, ils arrivent là, alors que bon, les juifs ont été là depuis 2000 ans. Ils acceptent Jésus, ils fondent une église. L'église était juive. Les rites, d'ailleurs, si on devait se transporter à l'église du 1er siècle, je vous assure que vous seriez très surpris par la manière dont on célébrerait les choses. Elle devait être très juive. Paul a été à la synagogue jusqu'à la fin de sa vie, en espérant ramener les gens jusqu'à ce qu'ils soient chassés. Hein. Il a été chassé, on l'a persécuté, on l'a mis à mort. Mais il est resté juif jusqu'à la fin de sa vie. Donc, les gens arrivent, les païens arrivent, et puis ils n'ont rien. Ils n'ont rien vécu, ils n'ont pas fait les bonnes actions, etc. Ils ont simplement accepté Jésus-Christ, l'essentiel, le Messie d'Israël. Ils l'ont accepté. Et ils n'ont rien à faire. Et Paul leur dit, écoutez, pour vous, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous n'avez pas à vous conformer à tout ce qui était avant. Vous n'avez pas à le faire. Vous avez simplement accepté le Messie d'Israël. Et les Juifs savent aussi que quand le Messie viendra, parce qu'il attend toujours, tout changera, que toutes les nations de la terre vont venir. Nous, on pense que c'est Jésus le Messie, on l'a reconnu comme tel. Et c'est logique de penser que tout changera, puisque Jérémie le dit. Donc ils le savent, et heureusement pour certains d'entre eux, ils se sont convertis au Christ en reconnaissant Jésus comme étant le Messie d'Israël. Mais c'est une lecture aussi à faire. La logique comptable de Jésus n'est pas la même pour nous, et nous devons être de ceux qui ne sont pas dans cette logique, comme le disait aussi Jean Simon dans sa prière ce matin, qu'on n'est pas là pour se faire valoir, pour gagner de l'argent, pour briller dans ce monde à la manière des autres. On est là avant tout pour parler de notre immense joie, notre bonheur de connaître le Christ, de savoir que notre vie, même si nous devons essuyer des guerres, des tsunamis, des tremblements de terre, des ouragans, eh bien nous sommes capables de vivre cette épreuve terrible parce que nous avons le Christ à nos côtés. Un petit peu comme quand Paul était sur le bateau et il y avait la tempête. Paul était un petit peu un prisonnier comme les autres. Et puis plus l'adversité arrivait, et plus finalement Paul, qu'on commençait à s'intéresser à lui, parce que c'est peut-être lui qui a raison. Et c'est lui qui a commencé à donner les directives, c'était le chrétien de la bande, et le bateau a été sauvé. Que nous, si nous traversons ces épreuves-là, nous soyons à la hauteur. Pas nous, mais le Christ qui vit en nous. Et je terminerai simplement par un psaume que je vous lirai, et que nous pouvons nous approprier. Chaque jour, je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand, le Seigneur, hautement loué. À sa grandeur, il n'est pas de limite. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait, il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Amen.